Vous écoutez le supplément de Tech Café, le deuxième épisode de la semaine, un rendez-vous sur l'actualité des nouvelles technologies. Nous sommes le 5 décembre 2023 au moment où on enregistre cet épisode et c'est le supplément de l'épisode 345. On a donc des infos qui vont un petit peu plus loin dans l'actu, à commencer par Amazon avec les séries de présentation Amazon Reinvent. Bon, je le prononce mal, mais Reinvent, voilà. Je suis Guillaume Vendée, podcasteur. On va parler de plein d'autres choses, hein, évidemment. Je suis Guillaume Vendée, podcasteur technophile enthousiaste et je retrouve le responsable du conducteur de cet épisode, c'est Guillaume Poggiaspala. Salut Guillaume, et comment vas-tu ?
Mais ça va très bien.
Figure-toi, moi, que j'ai toujours un petit peu la gorge abîmée, donc je vais globalement bien, mais c'est pas agréable de parler comme ça quand on a la gorge abîmée. C'est pas très grave. Un petit coucou à nos fidèles soutiens et notamment les soutiens, alors pas forcément encore fidèles pour partie d'entre eux parce qu'ils nous ont rejoints il y a pas longtemps, mais vous verrez qu'il y a des noms connus. Sylvain, Gaël, Maxime Letellier, Jimmy Valente. Je sais pas pourquoi j'ai besoin de dire Valente, parce qu'en plus moi-même je m'appelle Guillaume Vendée. Et parfois, tu vois, quand je suis dans l'administration, Guillaume, on me dit « Guillaume, vous vous appelez Monsieur Vendée ?» Non, bah non. Bon, bref, c'est pas grave. Et Romaric Brillant, qui donc nous soutenait pendant un moment.
C'est des origines portugaises, non ? Je sais pas.
Je n'ai strictement aucune, mais visiblement, peut-être les origines portugaises qu'on veut bien me prêter. Écoute, moi, je suis ouvert à tout. Hein. Après tout, va savoir d'où je viens profondément. Mais non, normalement, mais c'est juste de la Vendée.
Nous sommes universalistes, voilà. Nous, attends.
Citoyen du monde de la technologie, voyons. Et puis donc, Romaric Brillant, créateur de jeux, qui nous soutenait sur Patreon, qui nous soutenait moins ces derniers temps, mais qu'on a le plaisir de réaccueillir. C'est aussi une manière de nous soutenir, c'est de venir faire un petit tour de temps en temps, de nous soutenir pendant un mois, deux mois. Et puis, quand vous voyez que vous n'avez plus forcément les possibilités, vous pouvez suspendre, et puis vous revenez un petit peu plus tard. Ou peut-être même que le contenu des épisodes ne vous convient plus forcément. Ça ne vous empêche pas de revenir par la suite. En tout cas, à chaque fois que vous envisagez un soutien, c'est évidemment hyper appréciable pour nous. Guillaume, on ne va pas tarder plus que ça avant de se lancer dans les news de la semaine. Sans autre forme de procès, je le disais, c'est Amazon qui a pris la parole sur... Ah, j'ai presque envie de dire, mais je serais sarcastique, comme le veut la tradition chez Amazon, sur à peu près tout et n'importe quoi, mais quand même.
Eh ben oui, ben c'est Reinvent, c'est vrai, c'était la semaine dernière... Bon, alors, c'est toujours une conférence orientée professionnelle, hein, où il y a été beaucoup de questions, d'ailleurs, sans trop de surprise, d'intelligence artificielle.
Tiens donc.
Et oui, et qui, quelque part, rejoint assez ce qu'on a vu chez Microsoft Ignite, n'est-ce pas, avec des IA génératives un peu partout. Il y a eu pas mal de réponses comme ça. Il y avait des assistants pour les professionnels, des puces customisées pour AWS, hein, comme qui rappelle d'ailleurs aussi ce qu'a montré Microsoft avec les Cobalt et les Maya chez Azure. Il y a eu plein de choses, il y a eu comment vendre des trench coats génératifs à des gens qui font des trajets à New York. Je fais référence à une démo comme ça, où effectivement il y a aussi des outils pour générer des produits que les gens pourraient acheter, etc. Bon, enfin voilà. Il n'y avait pas vraiment de trucs qu'on puisse tester vraiment nous en tant que grand public, sauf peut-être les lunettes connectées EcoFrame, qui est un petit peu la version des Ray-Ban de Meta, hein, tout simplement, c'est des montures de lunettes connectées pour être précis, jusqu'à des lunettes connectées d'ailleurs. Puisque vous pouvez les utiliser comme lunettes de soleil ou de vue, hein. Vous pouvez mettre vos verres dessus. Donc c'est un écho, mais dans une monture de lunettes relativement standard. Ça se voit pas trop, effectivement, pour le coup, ça devient des lunettes qui sont assez passe-partout. Elles peuvent diffuser du son, vous pouvez interagir avec Alexa, avec elle, bien entendu. Les nouvelles Echo Frames sont une amélioration incrémentale, vraiment des anciennes. Et j'ai toujours autant de mal à avoir une utilité quelconque à ce truc-là.
Ah là, oui,
j'y arrive pas trop.
Ouais.
Parce que je veux dire, moi je suis myope, tu vois. Je suis myope, je peux
moi
pas
aussi.
Me passer mes lunettes. Donc, il faut bien recharger ces lunettes, c'est les appareils qu'il faut recharger forcément, il y a des batteries. Alors, quand est-ce que je les recharge ? Quand je dors. Bon, ok, à la limite. Mais le problème, c'est qu'elles n'ont que 6 heures d'autonomie. Donc je vais passer la majeure partie de ma journée avec des lunettes déchargées sur le nez, c'est débile. Si vous n'êtes pas myope, bah alors ça peut être des lunettes de soleil, ok, mais du coup, les lunettes de soleil, tu les gardes pas à l'intérieur pour travailler,
exact.
Tu vois, c'est bizarre. Ou alors c'est des lunettes anti-lumière bleue. Bon, ça commence à devenir un peu niche, mais bon, voilà. Si vous sortez, est-ce que tu vas mettre tes lunettes anti-lumière bleue dans la rue ? Bon, dans tous les cas, je vois pas très bien l'usage de ce truc. Ça, j'ai toujours un petit peu de mal, mais bon. Amazon, en ouverture de la conférence, a aussi trouvé un autre usage, son mini media center FireCube. Et alors, c'est assez rigolo quand même, parce que le FireCube est un media player avec micro et haut-parleur intégré, hein, et c'est prévu pour Alexa aussi. Donc c'est un media player, hein. Normalement, tu mets sur ta télé, tu regardes Amazon Prime en 4K et t'es content. Bon. Et là, il a été repackagé, c'est exactement le même matos, sauf qu'il lance juste automatiquement un logiciel de bureau à distance dans le cloud, le logiciel pour l'Amazon Workspace, l'Amazon Workspace Client. Et donc, le Firecube
même
devient
processeur,
tout simplement...
Même ressources, c'est ça ?
Oui, c'est la même chose. C'est juste qu'on l'utilise comme un client léger. Voilà. Et donc, il fait que streamer un ordinateur distant, quoi, avec peut-être, voilà, peut-être le seul client léger qui possède un aussi beau et aussi gros haut-parleur, hein, avec un micro aussi prévu de base pour Alexa. Voilà, bon, je sais, c'est pas tellement passionnant. C'est vrai que, bon, voilà, plus les EcoFrame, moi, je vois pas trop l'intérêt. Après, bon, effectivement, hein, peut-être que c'est juste des usages qui sont pas les miens. D'ailleurs, je fais mon coming out et je fais aussi un monde honorable, voilà, tout ça.
Ah.
J'ai testé des écouteurs à conduction osseuse,
oh,
des casques à conduction osseuse.
Oh, oh.
Et oui, eh ben oui, je le confirme, ben en fait, c'est pas mal. C'est pas mal du tout, et c'est vraiment un usage que je connaissais pas. Alors attention, je suis toujours du même avis, dans la rue, dans le métro, c'est nul. Hein. Attention, ouais. Hein, dans la circulation, dans le métro, c'est nul, j'entends pas bien, c'est vraiment pas génial. Par contre, effectivement, je trouve des usages où bah, c'est plus sympa d'avoir les oreilles ouvertes.
Ok.
Et du coup, même chez moi, bah, en fait, quand on me parle, tu vois, enfin, j'entends des trucs, quand on me parle, c'est mieux. Quand je mange les intra-auriculaires, bah, j'ai pas les oreilles bouchées, enfin, je sais pas. Et effectivement, j'ai découvert la conduction osseuse. Et effectivement, c'est pas idéal dans toutes les situations. Mais je comprends que ça puisse avoir ces trucs. Et même moi, je trouve que c'est vraiment pas mal. Et que c'est, bah voilà, c'est une techno que je connaissais pas. Que je considérais, oui, bof, qu'est-ce que c'est ce truc. Et en fait, bah tu vois, bah non, bah, voilà. Comme quoi, on apprend tous les jours. Et donc, merci à la communauté d'avoir pointé ça. Parce qu'en fait, ça m'a aussi poussé à tester ce truc-là. À voir un petit peu ce que ça donnait. Et voilà, j'ai découvert un nouvel appareil sympa.
Excellent, bah, ça me fait penser un petit peu à la fonctionnalité transparence, ou parfois il y a d'autres noms, hein, selon les casques, notamment c'est les AirPods Pro peut-être, qui ont les modes transparence, et c'est vrai que ça répond à des usages. Alors oui, t'as raison, c'est vrai que c'est un peu con dans la rue, ou dans les transports, là où tu as déjà des problèmes de son, où t'entends pas très bien, ou au contraire t'as besoin du son pour des besoins de sécurité, mais bon, effectivement. Bah écoute, très bien, c'est chouette de savoir que tu as testé et que tu as changé d'avis. On continue avec Amazon qui avance en matière alors de plateforme cloud, hein, notamment sur la transcription et puis sur les créations d'images.
Oui, pour le coup, c'est pas forcément super passionnant non plus, désolé, parce qu'on a un peu l'impression qu'Amazon,
en tout cas.
on a un peu l'impression qu'Amazon finalement propose un petit peu ses réponses à tout ce que la concurrence a déjà proposé, tu vois, dévoile sa version de ce qu'on a déjà vu un peu ailleurs. Bon. Amazon Transcribe, par exemple, utilise désormais un nouveau modèle fondationnel là, qui comprend plus de 100 langues. Bon, ben, c'est très bien, hein, mais on a déjà vu Whisper, V3, et on a parlé de Seamless, de Meta, tu vois, dans le dernier épisode, qui insiste d'ailleurs aussi sur la performance dans les langues rares. Et donc, mais c'est bien, hein, pourtant, parce qu'on est quand même passé de 39 à plus de 100 langues en quelques mois avec Amazon Transcribe, donc c'est quand même une performance sympathique, tu vois. Et pour la génération d'images, c'est pareil. Son modèle, ben, s'il s'appelle le Titan, enfin Titan Image, alors Titan, c'est plusieurs trucs, mais là, c'est le modèle Titan qui fait des images, qui se place en face, voilà, de Dali, de Midjourney. Et bon, voilà, c'est un secteur qui est très encombré. Maintenant, il y a beaucoup de générateurs d'images qui atteignent des niveaux, d'ailleurs, de qualité qui sont assez sensationnels. Donc, Titan, c'est effectivement une série de services, en réalité. Donc, il y a Titan, donc Titan, Titan Text, Titan Text Lite et Titan Embeddings, aussi, en plus de Titan AI Image. Donc, les versions texte, là, en fait, c'est des trucs qui, effectivement, génèrent du texte, alors, voilà, plus ou moins vite, comme GPT Turbo ou GPT pas Turbo. Et le Titan Embeddings, en fait, bah, c'est une base de données de vecteurs, quoi. C'est-à-dire que ça permet de stocker, sous forme de vecteurs, des corpus de texte, hein, pour faire de la génération augmentée. Alors, pourquoi on les met en vecteurs? Bah, tout simplement pour pouvoir faire de la recherche sémantique à l'intérieur de ces textes-là et pour les injecter directement dans la mémoire du modèle de langage. Pour qu'ils puissent s'en servir pour générer des réponses. Donc ça veut dire qu'on peut poser des questions au modèle de langage et qu'il pourra répondre aussi bien avec son propre savoir à lui qu'avec le savoir qui est dans le texte qu'on lui a donné, qu'il y a dans le corpus de texte qu'on a vectorisé. Donc on prend des morceaux, voilà, selon la correspondance et la requête faite par l'utilisateur, et puis on génère après une réponse en langage naturel. Donc Titan s'enrichit aussi, du coup, voilà, de la génération d'images avec un modèle qui est uniquement accessible via une API. Donc c'est pour les devs, c'est pour les développeurs. C'est pas une service web grand public, hein, comme Midjourney, pas du tout. Donc c'est pour permettre aux devs de créer des applications qui utilisent la génération d'images comme ils veulent. À noter que, comme avec DALL-E 3, les images générées par le Titan seront marquées. Elles sont filigranées, hein, pour pouvoir les reconnaître qu'elles sont synthétiques. C'est-à-dire le watermarking, comme on dit. Donc tout ça est accessible via Amazon Bedrock, qui est donc en fait une interface d'API unifiée, hein, qui donne un accès au modèle d'Amazon. Alors, il y a tous les Titans, mais il y en a aussi d'autres. C'est-à-dire que tu peux, via Bedrock, accéder à Cloud, à Stable Diffusion, etc., etc.
Ok, excellent. Bah écoute, tant mieux. On va pouvoir suivre tout ça de très près quand ça va continuer à avancer. Et puis, on a une lettre, Guillaume, qui tantôt signifie les théories complotistes, tantôt du côté d'OpenAI nous montre la voie des prochaines intelligences artificielles et bah là, qui est réutilisé aussi sur les projets d'Amazon, c'est Q, Guillaume.
Oui, Q comme le geek des gadgets de James Bond. Alors, je ne sais pas si c'est ça la référence, j'espère. Mais bon, voilà, ça sera un assistant IA qui sera capable d'aller chercher des informations dans toutes sortes de documentations, en gros volume, voilà, qu'une entreprise peut avoir, quoi. Et en plus d'être un chatbot qui sera incollable sur les services, évidemment, que vous lui donnerez, elle sera bien entendu incollable sur tous les services AWS. 17 ans de savoir AWS qui sera distillé dedans. En réalité, Q pourra fonctionner avec le modèle de langage que tu veux, donc le Titan, bien entendu, mais aussi le Llama 2 ou ce bon vieux Claude. Voilà, pareil, via Bedrock, on pourra donc appeler et configurer Q au mieux pour ses propres besoins. Voilà, pour, évidemment, pour chaque entreprise aura un Q, le Q qui lui plaît. Bref, pour l'instant, c'est uniquement disponible pour les clients d'Amazon Connect, c'est-à-dire les services pour call center. Ça viendra ensuite pour Amazon Supply Chain et QuickSight et que des trucs pro que je connais pas du tout, donc je vais arrêter tout de suite. Et bon voilà, je vais conclure par le prix. C'est $40 par mois et par agent, ce qui est assez cher hein, si on considère que l'offre ressemble d'ailleurs aux copilotes de Microsoft qui sont par ailleurs disponibles à $30 par mois et par utilisateur, ce qui est assez cher aussi parce que quand t'as une entreprise, t'as pas mal d'utilisateurs quoi. Donc ça peut monter assez vite toutes ces conneries. Et bon, d'ailleurs il y a même un seuil minimum, on en avait parlé chez Microsoft, en dessous duquel vous ne pouvez pas encore souscrire à Copilote pour donc le là, Office 365.
Là, c'est pareil pour Amazon, il y a un minimum ou...
Pas que je sache. Mais bon, de toute façon, c'est pas le genre de truc et tu prends l'unité en général. Mais bon, voilà. Et encore, Q n'a pas que Copilote comme concurrent, hein, donc on verra s'il est concurrent, enfin, s'il est concurrentiel, on va dire. Parce que finalement, tout le monde met des chatbots partout, même Dropbox mais va mettre un chatbot dans son truc, même Notion va mettre un chatbot aussi. Donc à voir si c'est attractif, perso je n'ai aucune idée pour le moment, bien sûr on verra sur pièce. Hein. D'ailleurs la valeur ajoutée même de l'IA pour les entreprises reste encore en question. Faudra voir ce que c'est au cas par cas, et c'est une question qui est un peu confirmée on va dire, qui est un peu confortée là-dedans par Brian Lightcap, qui est le COO d'OpenAI, qui affirme qu'il y a une hype excessive pour l'IA dans le milieu d'entreprise. Alors pourquoi il dit ça ? Parce qu'il y a beaucoup de business qui ont approché OpenAI et qui, d'ailleurs, par ailleurs, fait des offres entreprises comme ça, avec des services un petit peu sur mesure. Hein. Et en général, les business arrivent avec OpenAI avec une liste de demandes qui est plus longue qu'une lettre au Père Noël. Même que la lettre au Père Noël de Cartman, quoi. Je veux dire, vraiment une très très longue liste. Et en gros, ils demandent tout, ils demandent tous les cadeaux. C'est voilà, ils veulent réduire les coûts, ils veulent résoudre leurs problèmes, ils veulent booster leur croissance. Et tout ça du jour au lendemain. Voilà. Ils ont apparemment des grosses attentes qui sont pas forcément réalistes, quoi. Donc les premiers retours des employés, d'ailleurs, qui ont ces nouveaux outils, sont pas toujours d'un enthousiasme délirant. Chez Morgan Stanley, par exemple, on a mis en place un chatbot pour la gestion de patrimoine, et il est pas utilisé, voilà, par quasi personne, parce que, tout simplement, ben, les gens préfèrent parler à d'autres gens. Et éventuellement, pour pouvoir éventuellement blâmer d'autres gens, si jamais il faut des erreurs, je sais pas. En tout cas, il faudra des années hein, pour voir à quel point les IA sont vraiment efficaces en entreprise, et pourquoi. Et à quel point les humains ont juste envie d'interagir avec, en vrai.
Ouais, c'est une bonne question à se poser. Et puis, évidemment, toute bonne conférence de ce type, Guillaume, par une entreprise comme Amazon, doit évidemment intégrer son lot de nouvelles pupuses avec des noms tellement sexy, on dirait des méchants un peu dans des comics américains, des comics américains d'il y a quelques années, hein, Graviton, Trainium.
Exactement, c'est... Eh bien oui, d'ailleurs, c'est comme une réponse un petit peu à ce qu'on a vu chez Microsoft Ignite. Hein, AWS a présenté ses nouvelles puces pour Data Center, qui viennent encore en paire, comme les sites, un CPU pour le serveur et, enfin, c'est pas un GPU, mais c'est une puce pour l'entraînement du deep learning, en deep learning. Hein. C'est donc les Graviton en version 4 et les Trainium en version 2. Les Trainium qui font du training tout connement. Alors, à la différence de Microsoft, cela dit, ce ne sont pas du tout, comme leur nom l'indique, les premières puces du coup hein, d'Amazon, qui fait ça sur mesure depuis un petit moment, en particulier pour les Graviton, puisque les Graviton ont débuté leur existence en 2018, et ils ont été parmi les premiers CPU ARM à intégrer les serveurs de manière vraiment massive. ARM, à l'époque, c'était encore voilà, quand même largement destiné au marché mobile. Ils ont un peu servi d'exemple, et ils ont montré voilà, que l'architecture était tout à fait viable dans des machines professionnelles hein, à l'échelle de data center. Donc Nvidia a aussi emprunté cette voie depuis, bien sûr, Microsoft, hein, comme tout dernièrement, puisque voilà, leur Cobalt sont basés sur ARM. Donc au début, les Ravitons ne visaient pas vraiment la performance maximale, hein, c'était plutôt le rapport puissance-prix-consommation. Donc c'était un peu les processeurs que vous aviez les moins chers, quoi. Et les Gravitons ont toujours utilisé des designs classiques, entre guillemets, c'est-à-dire ceux qui sont fournis directement par ARM, directement par la boîte anglaise. Donc c'était des cœurs qui étaient à 72, donc dans les premiers Gravitons, puis après ils ont adopté la gamme Neoverse, parce qu'à un moment, ARM s'est réveillé, il s'est dit « Oh ça alors, incroyable, il y a des pros et qui veulent de nos trucs pour leur serveur, ben, on va peut-être faire des cœurs pour eux du coup, plus optimisés pour les applications de serveur. » Et du coup, ils ont sorti la gamme Neoverse, et les Graviton 4 donc sont sur des Neoverse. Ce sont sur les dernières itérations, évidemment, de l'architecture Neoverse. Donc, c'est des puces qui ont 93 cœurs Neoverse V2 avec 12 canaux DDR5. Donc, ce n'est pas du tout des petites puces mobiles, hein, c'est vraiment des trucs fat. Et ça consomme 130 watts, c'est gravé en 4 nanomètres chez TSMC. Donc, aujourd'hui, c'est des puces qui sont compétitives avec l'offre d'AMD ou d'Intel, qui sont souvent moins chères en termes de gigaflops par dollar à la location sur AWS. Quant aux puces Trainium 2, elles sont censées être 4 fois plus puissantes que les précédentes pour l'entraînement des modèles. Et bon, comme souvent avec les puces propriétaires, on n'a pas forcément de comparaison directe via la concurrence. Donc il y a des benchmarks. J'avais vu un benchmark indépendant qui montrait que les Trainium première version étaient un petit peu au-dessus des Tesla V100, parfois nettement, parfois pas forcément pas pareil, quoi. Mais qu'elles étaient par contre toujours moins chères à l'usage. Alors les Trainium 2 devraient être donc du coup, a priori, compétitives avec les A100, voire les H100, au doigt mouillé, hein, il faudra voir. Amazon cherche, encore une fois, pas à avoir forcément la palme de la puissance non plus, mais ils cherchent à proposer quelque chose de crédible, de pas trop cher, et surtout de proposer quelque chose. Parce que, évidemment, tout le monde voudrait des H100, mais les H100, c'est très très cher, il y a une pénurie, ça coûte une blinde, et en plus, il n'y en a pas pour tout le monde. Donc proposer quelque chose, déjà, c'est bien. Or, Amazon va déployer un cluster de 100 000 Trainium 2, donc ça va devoir de quoi satisfaire pas mal de besoins. Par ailleurs, il est encore son partenariat avec Nvidia aussi, hein, donc il lâche pas, hein, donc il sera le premier même à utiliser les GH200, donc c'est des H100 un peu boostés, quoi, en fait, avec plus de mémoire, donc en combinaison Grace Hopper, c'est-à-dire avec les CPU et GPU 100% Nvidia, et bon, voilà, ça ce sera évidemment quand elles seront disponibles, en théorie, l'an prochain.
Eh ben, suspense, très bien, merci, on en profite. Alors là, on a commencé à parler de puces, on va parler de petites et de grosses pupuces, il y en a plein d'autres dont tu voudrais nous parler, Guillaume, à commencer, alors bah, pour le coup, par des très très grosses machines. On est dans le top du top, au pied de la lettre d'ailleurs, dans les podiums, avec Microsoft Eagle. Alors là, dans les ciels azur, il y a donc des aigles qui s'envolent, c'est ça?
Absolument, dans les cieux azur, oh, comme c'est beau, bravo. Effectivement, on continue sur les pupus avec juste un exemple qui illustre la taille et l'échelle incroyable, hein, que le cloud atteint aujourd'hui. C'est simple, le troisième ordinateur le plus puissant du monde, c'est une machine Microsoft qui s'appelle Eagle, et c'est une machine privée donc, que vous pouvez utiliser, hein, parce que vous pouvez en louer des parties, puisqu'elle fait partie tout simplement du cloud Azure. Eagle regroupe 1 123 000 cœurs Xeon Platinum et 14 400 GPU H100. Et c'est un truc qui aligne 561 pétaflops. Bon, même si le premier du top 500 des plus grosses machines du monde totalise plus de 1000 pétaflops, c'est quand même la machine destinée au cloud la plus puissante jamais faite. Et à ce train-là, les plus gros superordinateurs du monde appartiendront peut-être bientôt à des entreprises privées et plus à des universités ou des instituts de recherche. Et bon, évidemment, les boîtes privées vont louer cette puissance. Hein. Et c'est tout à fait vraisemblable, en fait, hein, parce que en ce qui concerne l'IA, on voit bien qu'il y a une mutation en demande dans la demande des calculs pour le cloud. Parce que jusqu'à présent, parce qu'il y a quelques années, qu'est-ce que vous mettiez sur le cloud? Vous mettiez vos sites web, vous mettiez vos hébergements de fichiers, vous mettez des bases de données un peu monstrueuses, voilà, des myriades de services web, mais c'est tout. C'était pas du calcul intensif. Aujourd'hui, avec l'IA, ça change fondamentalement, parce que l'IA, c'est du calcul intensif. Et du coup, les hyperscalers doivent se convertir rapidement au calcul haute performance, qui était jusqu'à présent pas leur secteur. Le calcul haute performance, c'est un besoin particulier de scientifiques en général. Aujourd'hui, tout le monde veut des pétaflops. Des pétaflops en faible précision et pas en double précision, comme les scientifiques utilisent pour leurs simulations de super haut niveau. Mais quand même, tout le monde est amené à faire du HPC désormais, du High Performance Computing. Et bon, en passant, puisqu'on parle de Microsoft, bah, tu te souviens des data centers en tube au fond de l'eau, on avait testé ça un moment, c'était le projet Natick. Donc le tube avait tenu 2 ans au fond, il avait remonté en 2020. Bon, on n'a plus trop parlé depuis, je ne sais pas trop ce que c'est devenu cette idée. Mais ce qui est marrant, c'est que pendant que Microsoft est encore dans la prospective, apparemment, les Chinois de SenseTime viennent de faire exactement pareil. 2 tubes de serveurs, 1300 tonnes de matos qui viennent d'être déposées à 35 mètres de profondeur, donc un premier module pour un data center sous-marin, qui devrait être pleinement opérationnel en 2025 et pour 25 ans. Alors c'est toujours présenté pareil, hein, comme un truc écologique, hein, puisqu'elle s'est refroidie de manière naturelle, hein, par l'eau environnante, mais c'est une eau que tu chauffes du coup. Et donc, bah, data center entier, ça va chauffer quand même pas mal la zone. Et si tous les data centers finissent par plonger avec les poissons pour aller leur chauffer les nageoires, est-ce qu'ils vont apprécier ?
Pas sûr.
Je ne sais pas, tu vois, quel serait l'impact sur l'écosystème de déploiement massif de serveurs sur nos côtes ? Bah, on va peut-être bientôt le savoir.
Ouais, mais on va peut-être se rendre compte qu'un écosystème n'a pas besoin d'être bouleversé. C'est fou, on devrait avoir appris hein, depuis tout ce temps, mais
non.
Bon, on n'apprend pas vite. On parle du rachat de VMware par Broadcom, un des rachats dans le monde de la tech parmi les plus gros si on compte les montants et évidemment des premiers effets de bord, Guillaume.
Oui, on l'avait évoqué en mai 2022, Broadcom a racheté VMware pour 69 milliards de dollars, un montant astronomique, et puis c'est pas tous les jours qu'on parle d'une acquisition plus grosse que celle d'Activision Blizzard quand même.
Exact, ouais.
Donc, c'est chose faite depuis le 22 novembre. Broadcom possède VMware. Il a même repris 8 milliards de sa dette. Et les premières mesures fortes qu'il prend après ce rachat fait un renfort ironique, c'est licencier presque 3000 personnes. Au moins parce que certains. Voilà. Au moins parce que il y a certains postes qui ne nécessitent pas de préavis en réalité, donc c'est certainement un peu plus. Alors, VMware a 38 300 employés. C'est beaucoup plus gros que ce que je croyais en fait. Mais bon, Broadcom est principalement une boîte de hardware. Donc, c'est pas complètement clair quels postes sont des doublons entre les deux boîtes. Mais bon, même si elle a essayé depuis un moment de se faire un trou dans le milieu du logiciel, Broadcom a racheté Symantec et Sia Technologies, par exemple. Sia Technologies est une boîte dont j'avais jamais entendu parler, et qui fait apparemment un logiciel de gestion de projet, et c'est à peu près tout, et qui s'est pourtant racheté 18 milliards en 2018, comme quoi on apprend tous les jours. Mais bon, reste à voir ce qui attend les clients de VMware aussi, parce que vous voyez, il y a de très nombreux clients qui craignent, sans doute à juste titre, que Broadcom n'augmente leurs factures, parce que 69 milliards va quand même falloir les rentabiliser, quoi.
Ah oui, ça ne se rentabilise pas comme ça, un tel montant, Guillaume. Très bien, on continue avec notamment Intel et puis la poids qu'il représente parmi les clients de TSMC.
Oui, ou qu'il représentera, ce n'est encore qu'une rumeur, mais Intel pourrait acheter pour 14 milliards de capacité de production à son concurrent TSMC. Hein, et, je ne dirais pas que c'est son arc ennemi, mais bon, presque. Et donc, ce serait pour ses processeurs Lunar Lake, hein, les prochains, ça ferait de lui son deuxième plus gros client après Apple. Alors pour l'instant, le chiffre vient d'un rapport que j'ai repéré sur WeChat, c'est pas officiel, mais on sait qu'Intel aura recours aux usines de son grand rival pour ses prochaines puces, de toute façon, pour rester dans la course, hein, pendant que ses prochaines fabrications sont pas encore complètement prêtes. Voilà. Bon, alors, cela dit, il est pas du tout certain qu'Intel fasse graver ses cœurs CPU hein, chez TSMC, mais il pourrait s'agir de certaines briques comme le GPU intégré ou les entrées-sorties, enfin voilà, des composants qu'on trouve sur un système sur puce, quoi. On s'attend aussi à ce qu'Intel achète un gros paquet de wafers pour déjà les prochains GPU Battle Mage, et puis peut-être ses puces de calcul pour data center, ses Gaudi 3, etc. Alors ça pourrait aller chercher vers les 15 000 wafers en 3 nanomètres en 2024 et 30 000 en 2025. Alors que les USA investissent des milliards par dizaine pour réduire, voire annuler hein, leur dépendance aux usines asiatiques, on mesure bien à quel point le chemin est encore long. Alors, si on pose la question à Jensen Huang, d'ailleurs, ça pourrait, donc il est PDG de Nvidia, je rappelle, ça pourrait carrément prendre 20 ans aux États-Unis pour retrouver une souveraineté sur les semi-conducteurs. Oui. Et Jensen, il insiste aussi sur le fait que ses propres puces, hein, c'est magnifique, GeForce et machin, c'est des milliers de composants différents qui viennent du monde entier et pas juste de Taïwan. Et que donc, il souligne bien que ça va être compliqué, 20 ans c'est beaucoup. C'est même deux fois plus que ce qu'espéraient les pouvoirs publics en réalité. Hein. L'Institut National des Standards estimait il y a peu que d'ici une décennie, les US pourraient fabriquer et packager les puces les plus sophistiquées du monde. Bon, peut-être pas finalement. Le boss de Nvidia douche un peu les espoirs en attendant la guerre économique avec la Chine complique encore tout. Et puis voilà, il doit trouver des moyens de vendre ses puces aux Chinois, d'ailleurs, des Nvidia, malgré les taux qui se resserrent. Parce que bon, Nvidia marche sur l'eau en ce moment, hein, sa valuation boursière est passée brièvement au-dessus des 200 milliards. Son action est au plus haut, tout comme son chiffre d'affaires, mais bon, être au top, c'est pas facile. Hein, et puis le rester au top, c'est encore moins facile.
Tu m'étonnes.
Et Jensen, il commence à prudemment prévenir les investisseurs que les rentrées vont sans doute baisser un petit peu au trimestre prochain à cause de l'embargo chinois. Ouais, Wall Street, il va pas aimer ça. Bah, qu'est-ce que tu veux, voilà, Il a des problèmes, le pauvre Jensen. Il n'a pas des problèmes de riche, le pauvre Jensen. Il a des problèmes de très, très, très riche.
C'est exactement ça. Oh, alors, autre problème de riche, Guillaume, c'est quand tu es Apple et que tu veux vraiment contrôler la totalité des éléments qui constituent les produits que tu vends, à savoir notamment l'iPhone, évidemment. Il était question qu'Apple produise ses propres composants permettant la connectivité, évidemment, notamment en 5G. Alors, ils avaient même d'ailleurs, je crois, recruté pas mal de monde de la division, ils avaient même racheté la division d'Intel qui, justement, faisait des modems, si je ne dis pas de bêtises, ça date d'il y a quelques années. En tout cas, ils sont encore en étroite collaboration avec Qualcomm dans l'hypothèse, évidemment, de produire donc leur propre modem. Pas gagné, Guillaume.
Bah, c'est une petite news étonnante, mais c'est encore une rumeur. Donc là, on est un petit peu dans la phase rumeur, enfin dans la section rumeur. Selon MacRumors, c'est une rumeur, Apple est en train de jeter l'éponge pour la fabrication de son propre modem 5G. C'est étonnant, des sources au Japon et en Chine qui affirment qu'Apple serait en train de liquider les ressources attribuées à ce projet, projet de longue haleine, hein. Pourtant ils travaillent là-dessus depuis 4 ou 5 ans minimum. Et quand on dit liquider, on parle du matos et des employés qui travaillent dessus. Enfin, on les liquide pas comme la mafia colombienne, on les recasse. Hein, voilà. Voilà, donc on espère. Bon, c'est assez rare hein, qu'Apple se retrouve vraiment face à un échec. Hein, lui qui a de vastes ressources qu'on imagine même quasi illimitées, c'est toujours étonnant. Si c'est vrai, ça le serait d'autant plus qu'Apple construit quand même des CPU, des GPU parmi les meilleurs du monde. Alors faire des modems, ça paraissait pas a priori si compliqué. Bon, peut-être que c'est relié à la multitude de standards qu'il faut pouvoir comprendre, avec lesquels il faut pouvoir être compatible à travers le monde. En tout cas, c'est un coup dur pour son intégration verticale et c'est pas demain du coup qu'il va pouvoir se débarrasser de Qualcomm. Finalement, cet accord amiable n'était pas une si mauvaise idée, hein, parce qu'ils avaient trouvé un accord en 2019, puis un autre en 2023, et Apple a sécurisé des puces 5G pour jusqu'en 2026. Ben là, peut-être que ce sera même pour toujours, en fait. Je sais pas.
Peut-être qu'ils vont reconnaître le fait que sur ce domaine-là, jusqu'à preuve du contraire, ça vaut peut-être pas le coup d'internaliser, on verra. On repart du côté de la Chine, Guillaume, avec Longson. Oui. Je l'ai bien dit, Longson.
Bah, probablement Longson, ouais, effectivement.
Je demanderai à mon fils. Il fait mais
oui,
chinois.
Et ce truc-là, il est intéressant. Donc, c'est un processeur, Longson, enfin, en tout cas, c'est une marque qui fait des processeurs. Et leur dernier processeur, en fait, c'est des processeurs en 14 nanomètres. C'est marrant, en 14 nanomètres. Hein. C'est 14 nanomètres, c'est le bon vieux temps. En échelle de temporalité tech, bon, c'est pas le Moyen-Âge, mais en fait, c'est un petit peu comme l'époque des pattes d'Ef, tu vois. Ouais. On s'en souvient avec affection, mais on n'a pas envie d'y retourner. Enfin, ça dépend.
C'est rétro.
Ça dépend, voilà, c'est rétro. Ça dépend, t'as peut-être envie d'y retourner si c'est ton âge d'or, bien sûr. Tu vois, si t'as eu ton premier baiser sur le solo d'abat, par exemple, peut-être t'as envie d'y retourner. Mais bon, le 14 nanomètres, c'est pareil. Pour Intel, c'est sa 5e génération, c'est l'époque où il menait le jeu, tu vois, où il était le roi de la colline, comme on dit. Donc c'était Broadwell, puis Skylake, la belle époque, hein, où on pouvait vendre toujours les mêmes puces en changeant le numéro d'une année sur l'autre. Pas donc on s'amuse avec des drones ou des voitures autonomes. Voilà, c'était ça Intel au milieu des années 2010. Hein. Mais bon, c'est fini ce temps-là. Voilà. Maintenant, Intel, c'est un quinca qui voit passer plein de jeunes lui passer devant et qui se défonce à la salle en prenant du collagène pour essayer de rester cool. Je m'égare un peu. Mais bon, voilà, je me suis perdu dans cette biographie métaphorique qui n'est pas du tout une autobiographie métaphorique, hein, je le précise.
On vérifiera peut-être, si on peut, pas sûr qu'on puisse.
Déjà, je vais pas à la salle pour l'instant, mais il faudra peut-être. Mais bref, bien que le 14 nanomètres puisse paraître très lointain, puisqu'on parle du 3 nanomètres à longueur d'épisode, il y a des puces modernes qui sortent avec un process de cette génération, des générations analogues, et le pire, c'est qu'elles sont pas ridicules. On va en citer deux, et le premier exemple, c'est la puce chinoise Longsun. Donc la Chine se débrouille de mieux en mieux à produire des composants 100% locaux. Ils satisfont donc de nombreux besoins là-bas, dans un pays qui est évidemment de plus en plus coupé des technologies occidentales. Donc le dernier Longsun, c'est le 3A6000, c'est une puce complètement originale en fait, hein, qui a sa propre architecture, qui mélange du RISC-V et du MIPS, c'est vraiment un truc à eux, ça utilise toujours de la DDR4 d'ailleurs. C'est des trucs qui ont 4 cœurs et 8 threads, qui tournent à 2,5 GHz, qui consomment 38 watts, ce qui est cohérent avec un process de génération 12 à 14 nanomètres. Hein. Donc c'est une technologie qui, globalement, au doigt mouillé, est à peu près équivalente de ce qu'on avait en 2020, quoi, pour nous. Hein. Donc c'est des puces qui vont se retrouver dans des machines de 50 partenaires, hein, qui pourront être des PC, des NAS, des équipements industriels, des équipements professionnels, etc. Et surtout, c'est des puces grand public, hein, qui sont 100% chinoises, de A à Z. Et qui n'ont finalement que 3 à 4 ans de retard sur les nôtres. Et elles continuent d'évoluer. Ces mêmes 3 à 6000 vont être bientôt poussées à 3 GHz, et un jour elles vont intégrer de la DDR5, hein, qui sera elle aussi fabriquée sur place, 100% chinoise, par CXMT. Et donc on voit effectivement que ils sont pas si loin que ça du tout, en réalité, et que ça continue d'évoluer, c'est assez intéressant à voir.
Quid de la consommation énergétique? de ces puces, Guillaume ?
Bah, elle est forcément supérieure. Hein, l'efficacité énergétique est forcément inférieure à celle d'un 3 nanomètre ou d'un 5 nanomètre. C'est clair et c'est net. Mais un quadricœur qui consomme 38 watts à 2,5 GHz, voilà, c'est ça, c'est les années 2019-2020, quoi, tu vois. Donc, en fait, ça veut dire que tu peux fabriquer des machines qui sont très, très puissantes, mais qui consomment effectivement beaucoup plus que nous. Donc, c'est un... enfin, que les nôtres. Donc, c'est aussi c'est un compromis que les Chinois sont prêts à faire, en réalité. Hein. S'ils doivent le faire, je pense que c'est un truc qu'ils feront, tout simplement.
Des cartes graphiques en 14 nanomètres, bientôt, Guillaume ?
Alors, c'est là que c'est très intéressant, parce que j'ai vu passer un truc qui m'a beaucoup amusé. C'est Grok.
Rien à voir avec l'IA de Tesla, enfin d'Elon Musk.
Eh ben pas du tout, parce que c'est pas Grok avec un K, c'est Grok avec un Q. Il y a beaucoup de Q quand même. Hein. Donc Grok, G-R-O-Q. Voilà. Et Grok, donc c'est la marque hein, qui fait des puces qui s'appellent les Grok Chip. Le Grok Chip, la puce Grok. Donc c'est un nouveau venu dans la course aux accélérateurs de deep learning et c'est vraiment un original. Alors déjà, c'est pas une puce de deep learning en réalité, c'est ce qu'ils appellent une LPU. Pour Language Processing Unit, donc c'est une puce spécialisée dans l'inférence pour les modèles de langage. Donc c'est vraiment spécifique. Hein. On avait déjà évoqué la spécialisation croissante des composants, nécessitée hein, par le ralentissement très net de la loi de Moore. Ben là, on passe encore en cap dans la spécialisation. Le Grok chip est globalement une machine à faire des calculs matriciels sur 8 et 16 bits. Et comme c'est 2023 et que tout le monde est mort de faim pour faire tourner des modèles de langage à la mode, ben, il va trouver des clients sans problème. Mmh. Et pourtant, Grok est très bizarre. Même quasi improbable, puisque c'est une puce qui n'utilise pas de mémoire haute vitesse comme une GPU. C'est-à-dire, il n'y a pas de... En fait, les puces Trainium, par exemple, dont on parlait tout à l'heure, là, d'Amazon, elles ont 96 gigaoctets de HBM. Comme votre carte graphique peut avoir 8 gigaoctets de VRAM, ou 12, ou 24, etc. Le Grok n'utilise pas du tout de mémoire comme ça, qui est déportée du processeur. En fait, il y a une petite quantité de RAM intégrée au processeur directement, donc de la SRAM qui est vraiment on-die, il y en a 230 mégaoctets par puce. Donc ça paraît vraiment petit. Hein. Et donc c'est sur le contenu de cette SRAM qui est directement dans le processeur qu'on peut faire des calculs à haute vitesse avec une énorme bande passante, évidemment, puisque c'est directement sur la puce. Et comme elle n'est pas énorme non plus, cette puce... Ben, finalement, ça fait pas beaucoup. Voilà, enfin, on se contente d'une finesse de gravure de 14 nanomètres. Donc les gens chez Grok, ils ont utilisé un process qui est vraiment ancien en réalité maintenant pour faire leur puce avec un petit peu de SRAM dessus. Bon, parce qu'en général, et c'est très étonnant, parce qu'en général, les fabricants tueraient père et mère hein, pour offrir plus de miniaturisation à leur processeur de calcul, là, pour avoir toujours plus de cœurs, toujours plus de fréquences, etc. Grok, ben, en fait, il tourne à 900 MHz et il a pas de mémoire de GDDR6, que dalle, non, rien du tout. Donc, c'est fabriqué par GlobalFoundries, et c'est un nom qu'on n'avait aussi pas entendu depuis un petit moment. Alors, GlobalFoundries, c'était jadis les usines d'AMD. Puis AMD est passé faiblesse, et GlobalFoundries a essayé de rester dans la course à l'innovation un petit moment, là, puis bon, il n'est pas revenu. Aujourd'hui, 14 nanomètres, c'est sans doute son maximum, quoi, plus ou moins. Donc il continue à graver des composants variés, hein, mais pour des segments qui ne sont pas le haut de gamme, voilà, ou la haute performance en général. Donc un processeur de calcul vendu en 2023 gravé par GlobalFoundries, c'est vraiment pas banal. Mais du coup, c'est infiniment moins cher, évidemment, parce que la fabrication coûte quasiment rien par rapport aux chaînes de 3 nanomètres surchargées de TSMC que tout le monde s'arrache. Bah, ça coûte rien d'aller chercher GlobalFoundries pour du 14 nano. Bon. Et comme il n'y a pas de HBM, il n'y a pas de RAM dessus. Du coup, t'as pas payé la RAM, il n'y a pas de souci de packaging, rien. Donc c'est encore moins cher, ça coûte vraiment pas cher. Et c'est une puce qui est ultra simple. Il n'y a pas de logique de contrôle, pas de cache, tout est déterministe du coup. Il y a juste de la SRAM et du calcul vectoriel. Il n'y a rien qui dépasse. Il y a une unité pour le réseau, pour la connectivité entre les puces. Et parce qu'en fait, la SRAM est partageable au niveau du cluster entier. Parce que l'idée de Grok, c'est d'aligner les Grok chips, jusqu'à ce qu'il y en ait suffisamment, en gros, pour que tu puisses caser ton LLM favori dedans. Donc les Grok sont sur des cartes, voilà, comme des cartes PC, enfin, des cartes PCI, hein, tout simplement, qui sont censées se regrouper par 8 sur un serveur, comme ça. Alors, chaque serveur a un GPU, enfin un CPU normal, je veux dire un processeur normal avec de la RAM standard pour contenir le modèle et voilà, et bon, orchestrer un petit peu ces gros chips. Donc ça forme un nœud, et ce nœud, ben en fait, et ces nœuds, ils vont se regrouper en rack de 8 nœuds sur 64 puces, et ainsi de suite. Et après, tu peux aligner autant de racks que tu veux, et puis voilà, ben, quand tu as assez de racks pour héberger ton gros lama, ben c'est assez simple en fait. Parce que les poids, ils restent en SRAM, ils restent à l'intérieur des puces à chaque fois, et chaque petit morceau de modèle reste à l'intérieur des puces. Et il bouge pas. Chaque token généré appelle tous les chips, partout, ils sont précisément synchronisés au cycle près sur tout le cluster. Et en fait, ce qui est très rigolo, c'est que ce cluster, qui est donc constitué de plusieurs armoires, elles-mêmes constituées de plusieurs racks, qui sont eux-mêmes constitués de plusieurs cartes, bah, tout cet ensemble-là, ce cluster, finalement, il fonctionne comme un énorme processeur monocœur. Et du point de vue du système d'exploitation, bah, toute la SRAM est partagée dans un même espace d'adressage. Et ça aussi, c'est original. Parce que là, enfin, en général, qu'est-ce que t'as ? En général, on fait du massivement multicœur. C'est ça qu'on fait depuis des années, on fait des massivement multicœurs. Donc ça veut dire que t'as plein de cœurs sur une puce. Là, bah, t'as plein de puces pour faire un seul cœur. Et ce qui est très rigolo, c'est que en fait, c'est une manière de construire leurs ordinateurs qui nous ramène dans les années 60, voire dans les années 50. À l'époque, si vous avez écouté les trucs sur l'histoire, vous le savez très bien, hein, c'est un ordinateur, c'était une pièce entière, avec des armoires un peu de tous les côtés, et dans chaque armoire, tu voyais en gros les composants qui n'étaient pas du tout microscopiques, et ces composants constituaient ce qu'aujourd'hui on retrouve dans des circuits intégrés et des microprocesseurs. Donc en fait, des microprocesseurs, le microprocesseur, il prenait globalement le mur, et puis l'autre mur, c'était la RAM, et puis l'autre mur, c'était les gestions des périphériques et tout ça. Donc en fait, on avait une machine qui était en plusieurs composants finalement qu'on voyait. Et finalement, Grok, c'est la même chose. C'est-à-dire que ce que tu as l'impression, ce qu'il y a sur ton mur, c'est-à-dire toutes ces armoires de machines, tu penses que c'est, ben, comme d'habitude, que c'est des GPU avec plein de cœurs, machin. Pas du tout. Ce que tu as sur ton mur, c'est une seule machine, c'est un seul processeur qui est fabriqué avec plusieurs composants, comme à l'époque. Sauf qu'évidemment, ben, voilà, toute proportion gardée, hein, mais c'est vraiment la même philosophie. Cette philosophie de faire un processeur macroscopique, énorme en réalité, elle est très originale et elle fonctionne en fait pas si mal que ça. Parce que si tu prends un cluster de 576 puces Grok, tu peux le comparer à un cluster de 8 H100 de Nvidia, qui est le top du top, hein, voilà, GPU standard, hein, pour le coup. Hein. Et ben, le système Grok, il est 10 fois plus rapide et il est 10 fois moins cher. Ce qui tout fait un rapport de qualité-prix de 100 fois quand même. Hein. C'est pas mal pour un truc gravé en mode rétro, en 14 nanomètres, comme à la grande époque. Hein, Et si on en croit le chiffre de 10 fois moins cher, ça placerait les 576 puces autour de 40 000 $. Ce qui veut dire qu'on est à moins de 100 $ la puce. Alors, et là encore, c'est, bon, 100 $ pour une puce de data center, c'est pas banal. Mais parce qu'en fait, c'est pas vraiment une puce. C'est un morceau d'un énorme processeur macroscopique qui prend tout le mur. Enfin, un processeur qui prend tout le mur. Donc c'est... Alors évidemment, on pourrait dire, ouais mais attends, ce truc, ça doit consommer horriblement, enfin énormément de trucs, ça doit être une catastrophe, consommation électrique. Eh bien pas du tout. Parce que même avec un process aussi ancien, il n'en est rien. On passe de 10 à 30 joules par token avec des Nvidia, avec des H100, à 1 à 3 joules par token sur du Grok. Ça paraît incroyable, et pourtant, finalement, c'est pas impossible du tout, parce que, encore une fois, le système Grok ne fait que très très peu de transferts mémoire, puisque les données sont déjà dans le processeur, et qu'ils y restent en fait, hein, puisque de toute façon, une fois que tu as chargé le modèle, les tokens, tu les craches les uns après les autres, mais tu utilises toujours les mêmes données, hein, globalement, dessus. Hein. Donc ça veut dire que les allers-retours mémoire, ben, y en a très peu, finalement. Évidemment, il faut mettre à jour le contexte de tout ça, mais globalement, il y a très peu d'allers-retours mémoire, alors que quand tu as de la HBM avec ton GPU, tu as ton GPU flambant neuf, tu as de la HBM autour, ben, il faut qu'il y ait des allers-retours constant et très dispendieux entre la mémoire et les unités de calcul. Alors que là, les deux sont fusionnés. Et du coup, bah, ça économise énormément, tout simplement, d'aller-retour, énormément d'énergie. Donc Grok, c'est une proposition qui est très particulière et très étonnante, qui utilise une technologie qu'on pourrait quasiment qualifier d'obsolète, et qui obtient des résultats qui sont remarquables, puisqu'ils sont complètement compétitifs avec les meilleures puces actuelles. Par contre, c'est pour des applications très spécifiques. Et donc c'est un compromis qui est vraiment original, en plus il y a même un autre compromis qui est très original, c'est que tu troques de l'argent contre de l'espace au sol. Parce qu'il faut bien se dire évidemment que quand tu as un cluster de Grok, ben, ça prend beaucoup plus de place que juste un serveur Nvidia. Parce que 8 H100 ça tient sur un rack, quoi, ça tient sur un serveur normal, tu vois. Bon. Alors que ben, si tu veux, ton cluster des 576 plus, il te prend le mur, quoi, tu vois, t'as plusieurs armoires. Donc ça prend beaucoup plus de place, mais ça te coûte beaucoup moins cher. Ce qui en énergie et même à l'achat. Donc c'est assez étonnant. Alors évidemment, on peut se dire que ça va s'arranger dans un futur proche, et c'est le cas. Ça va s'arranger de manière très importante dans le futur, puisque Grok a passé un accord avec Samsung, et donc ils vont passer sans transition du 14 au 4 nanomètres. Donc ça va faire un petit choc. Hein. Et donc, du coup, le nombre de puces requises pour faire le même boulot pourrait être divisé par 3,5, voire 5.
Ouais, c'est...
Et donc, l'efficacité énergétique du truc va aller avec. Donc, c'est quand même vraiment pas mal. Et pour conclure sur les points forts de Grok, ben, y a la disponibilité, encore une fois. Parce que déjà, ils proposent quelque chose. Parce que voilà, ils n'ont pas besoin de passer par TSMC. Donc, les problèmes de packaging de TSMC, ils s'en foutent. Il n'y a pas de HBM. Donc, Grok est capable de déployer 1 million de puces dans les 24 prochains mois. Et vu comme ça va être tendu pour trouver du Nvidia ou de l'AMD dans les 24 prochains mois, ben oui, les Grok pourraient se vendre, même si c'est des composants qui sont très particuliers, qui ne peuvent pas être utilisés pour entraîner les modèles, par exemple, enfin, je ne pense pas, ou pour fine-tuner les modèles, ça me paraît très compliqué, c'est juste pour l'inférence, mais quand même. Donc voilà, c'est assez intéressant, écoute, voilà, parfois vous n'êtes pas les meilleurs, vous êtes juste le seul.
C'est beau, excellent. Eh ben écoute, merci beaucoup Guillaume pour cet éclairage que vous n'entendrez pas, j'en suis sûr, dans d'autres médias de sitôt avec Grok et j'ai presque envie de dire que parfois c'est dans les vieilles soupes qu'on... Non, dans les vieilles marmites qu'on fait les meilleures soupes, mais je sais pas si ça s'applique bien finalement à cette histoire. Guillaume, je te propose qu'on mette de côté nos histoires de puces et qu'on s'intéresse au texte de loi, monsieur, au rapport des juges, les décisions ou les problèmes qu'ils vont avoir à arbitrer. Avec un sujet qu'on avait vu se dessiner, alors moi je pensais que c'était un sujet qui avait été réglé et tu nous le déterres comme ça en nous apprenant qu'en fait non, pas du tout, loin de là, c'est l'acquisition de Figma qui est un service de conception visuelle en ligne par navigateur qui avait été racheté par Adobe, évidemment je pense qu'ils y voyaient un concurrent de choix et qu'il fallait très vite les récupérer et bah, pas de chance, ça n'a pas l'air de se passer si bien que ça le rachat, Guillaume.
Ben moi aussi, je l'avais un peu oublié, hein, je l'avoue.
Complètement oublié, ça.
Ben, je pensais que c'était fait, en fait. Je pensais que la question de Figma par Adobe était conclue, puis voilà.
Carrément.
Il faut dire que ça fait plus d'un an déjà, c'était en septembre 2022, et Adobe annonçait sa volonté de racheter Figma pour 20 milliards de dollars, quand même. Belle acquisition aussi. Et d'ailleurs, déjà à l'époque, je me souviens qu'on s'était posé la question rhétorique. Mais est-ce que ce ne serait pas un petit peu une concentration énorme sur le secteur des outils de design,
oui,
quand
rappelle,
même, tout
ouais,
ça.
C'est vrai.
Ouais, et à l'époque, Adobe XD était en face carrément de Figma comme un concurrent naturel.
Ouais.
Alors, c'est plus le cas, puisqu'apparemment, Adobe XD n'est plus commercialisé, ce qui
pas, oui. D'ailleurs. C'est normal, ils ont racheté
étonnant.
Figma.
Mais c'est ça, ils ont racheté Figma, donc forcément. Mais bon, là, patatras, si j'ose dire. Les Anglais de la CMA, qui rigolent pas, décidément, avec les lois sur la concurrence, hein, ils ont jugé que le rachat était... c'était un problème de racheter son plus gros concurrent. Et bon, après des mois d'études approfondies, entre guillemets, ils ont décidé de dire non à l'acquisition dans sa forme actuelle. Ils demandent des changements structurels. Donc, alors, ça veut dire quoi? Bon, bah, la revente d'Adobe XD sera un premier pas, probablement, mais ça pourrait même aller plus loin, parce que Adobe pourrait avoir à revoir son offre Creative Cloud. Alors, du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faudrait que Figma ne fasse pas partie du Creative Cloud? Ça voudrait dire qu'il ne peut pas avoir à la fois Figma et, je sais pas, Illustrator, par exemple, ou... Bon, c'est pas complètement évident, et d'ailleurs, c'est à Adobe de faire des propositions, il a jusqu'au 19 décembre pour proposer un autre arrangement qui satisferait les juges de la concurrence anglaise.
Ouais, vraiment, j'étais très surpris parce que j'étais assez convaincu que ce truc était réglé. Bon, on va pas se répéter. On continue, Guillaume. Alors, avec quoi des fausses oratrices, c'est ça?
Bon, c'est une histoire complètement déliante hein, qui est arrivée la semaine dernière, ou presque deux semaines maintenant, en marge de la conférence de développeurs Devternity. Devternity est organisée par Edward Sisoff, et les billets sont pas donnés, hein, jusqu'à 870 $ quand même. Et bon, ça a été annulé de toute façon, parce qu'on s'est rendu compte qu'au moins deux femmes qui devaient intervenir, qui étaient sur la liste, en tout cas des intervenants, n'existaient pas. C'était Julia Kirizina et Anna Boyko, elles n'existent pas, et bon, alors voilà pourquoi elles font partie de la liste d'intervenantes. C'est bizarre. Parce, selon Edward, qui s'est justifié maladroitement, c'est parce que deux autres femmes auraient annulé leur participation à la dernière minute, et donc ils auraient mis des profils de démo à la place. Je sais pas qui fait ça, voilà, y a deux créneaux qui se libèrent, tu les mentionnes libres, parce que sinon les gens y vivent. Sinon comment tu fais après si les gens y viennent? Tu fais la conférence avec des mapettes? Tu fais quoi? Enfin bon, je comprends pas. Mais bon, donc ça devient encore plus rigolo à partir de là, parce que d'une part, il semble que ce soit pas la première fois que les intervenantes fantômes se retrouvent annoncé à une concurrence organisée par Edouard. Bon, d'ailleurs, c'est aussi pour ça, lui, ça a fait un tel scandale que tout a été annulé. Et bon, surtout, une des femmes qui aurait annulé est donc Julia Kirizina, qui a un alias sur Instagram, qui c'est Coding Unicorn. Et Coding Unicorn, c'est une petite célébrité. 404 Media s'est beaucoup intéressé à cette licorne. Hein. Il y a eu une change non négligeable, que ce compte soit bidon, voire que Julia en tant que telle n'existe pas. En tant que telle, en tout cas. Parce qu'il y a pas mal d'indices qui relient tous Kiri Sina avec Edward Sisoff. En premier lieu, certains posts de Julia sont des copiés-collés de posts LinkedIn de Sisoff. Sur certaines photos sur Instagram, on voit sur son écran qu'elle est loguée sous le nom de Sisoff. Sur le forum privé Lobsters, Sisoff et Kiri Sina ont été dégagés plusieurs fois pour usurpation d'identité. Et parce qu'en fait, il faut une invitation pour s'inscrire sur Lobsters, et de manière subtile, Sisoff s'est connecté, a lancé une invitation, s'est déconnecté, et deux secondes plus tard, l'invitation a été utilisée pour créer le compte Coding Unicorn. Tout ça de la même IP et du même navigateur.
C'est très subtil, dis donc.
Et oui, c'est subtil. Hein. Voilà, en tout cas, Lobsters a banni tous les comptes associés à tout le monde. Donc, à minima, Edward influence lourdement Julia et contrôle au moins un de ses comptes, et maintenant qu'on connaît sa propension à créer des femmes virtuelles, la possibilité qu'il se travestisse numériquement en coding unicorn sur Instagram devient de plus en plus crédible. Alors, il reste que les photos de Julia semblent réelles, hein, ça semble des vraies photos d'une vraie femme. Alors, qui est cette femme et quel est son lien avec Sisoff? Vraiment, mystère.
La place de Xi Jinping dans la génération de contenu est un peu remise en question côté Hugging Face, Guillaume.
Hugging Face est attaqué aussi, mais pas en justice. Hein. Il est attaqué par, je sais pas, des fans inconditionnels de Winnie l'ourson. Puisque Hugging Face héberge plein de modèles et de datasets pour les pros, on le sait, et pour les pros, les particuliers aussi d'ailleurs. Mais il héberge aussi des démos, il peut aussi voilà, héberger des instances de serveurs pour vous permettre d'exécuter les trucs, puis des démos de divers modèles hein, qui s'exécutent donc directement là-bas, et vous pouvez tester Stable Video, voilà, Stable Video Diffusion hein, dessus, c'est gratuit, c'est très 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 long, mais parfois, mais vous pouvez. Et bon, il peut aussi y avoir des modèles un petit peu limites hein, pour faire des deepfakes, par exemple, de toutes sortes, y compris des modèles exprès pour faire chanter Xi Jinping ou Joe Biden. Et devinez quoi, bah, ceux de Xi Jinping, ils sont plus sur Hugging Face, alors que ceux de Biden, ils y sont toujours. Bah, pourtant, à la base, les deux modèles produisent des chansons de gens qui n'ont pas demandé à chanter ça, hein, sur des musiques de gens qui n'ont pas donné l'autorisation pour ça non plus, d'ailleurs. Donc, c'est pas les ayants droit qui se baladent sur leur temps libre, hein, sur Hugging Face, hein, mais bien des agents du gouvernement. Ils sont reconnaissables à leur manque d'humour, n'est-ce pas? Et au balai qu'on devine enfoncé où je pense. Alors, c'est vrai, je suis halluciné que des fonctionnaires chinois aillent jusqu'à éplucher les pages de Hugging Face à la poursuite des deepfakes du président. Alors que Hugging Face est officiellement bloqué en Chine. C'est ça le pire. Bon, je ne comprends pas. C'est récent et c'est avant tout une mauvaise nouvelle pour les Chinois d'ailleurs, hein, ce blocage de Hugging Face, parce que pourquoi ils font ça? Pourquoi ils se privent tout seuls d'une aussi grosse source de savoir? Je veux dire, j'espère que c'est pas juste pour les modèles de voix de Xi Jinping, parce que franchement, ce serait quand même pitoyable. En fait, l'hypothèse la plus crédible viendra d'une nouvelle loi locale qui demanderait aux compagnies d'enregistrer les modèles IA auprès du gouvernement. Encore un truc aberrant, puisque des modèles IA, ils sont produits des dizaines par jour. Donc, bon, pourquoi fabriquer artisanalement parfois, même, c'est les utilisateurs qui les font eux-mêmes. Bon, c'est incroyable. Alors évidemment, Hugging Face, lui, n'enregistre rien du tout, et c'est peut-être pour ça qu'il s'est fait virer. Mais dans tous les cas, ça reste un mauvais calcul.
On va parler un petit peu de Binance, hein, qui s'est vu infliger une amende assez costaude, et évidemment, c'est le CEO qui a dû laisser sa place. Et puis, on a une anecdote croustillante hein, du côté de Christine Lagarde. C'est la petite minute crypto, Guillaume.
Et oui, c'est un comble, mais on a appris que le fils de Christine Lagarde avait tout perdu. Enfin, non, c'est pas vrai. On n'a pas dit qu'il avait perdu tout. Et en tout cas, il a perdu la plus grosse partie de ses investissements dans les crypto-monnaies. Avec une mère directrice de la BCE, donc la Banque Centrale Européenne, qui est ouvertement crypto-sceptique, c'est quand même très cocasse. Parce que maman avait raison. Et voilà, il faut écouter sa maman. Enfin, faut écouter sa maman, puis après, tu fais ce que tu veux. Faut pas déconner non plus. Mais bon, bref, en l'occurrence, là, elle avait raison. Et le petit Lagarde, il ne sera pas le dernier à se faire plumer, hein, parce que le Bitcoin continue de grimper, excite tout le monde. Hein, ben là, bon, c'est toujours les mêmes raisons, rassurez-vous, hein, c'est les ETF qui arrivent. Et un petit peu le halving de l'an prochain, sans doute, donc rien ne change, hein, l'un comme l'autre sont des événements d'ordre purement spéculatif, hein, puisque les ETF, ça veut dire qu'on va pouvoir trader du Bitcoin en bourse, donc c'est de la spéculation. Et puis le halving, c'est juste que la récompense des mineurs va diminuer de moitié mi-2024, donc les Bitcoins seront plus durs à produire, donc le prix va monter avec la rareté, donc c'est de la spéculation. La qualité du produit, elle ne change pas, hein, c'est toujours nul, ça consomme toujours inutilement autant d'énergie, ça émet toujours autant de CO2, et au Kazakhstan, ça menace même l'accès à l'eau potable du pays, parce que voilà, il y a une nouvelle étude à ce sujet d'Alex De Vries, qui vient de paraître sur spécifiquement la consommation d'eau du Bitcoin, bon, on va pas épiloguer dessus, vous pouvez aller voir si vous voulez, c'est très intéressant. Mais bon, bref, je vais arrêter parce que ça m'énerve, puisque de toute façon, l'usage dans l'économie réelle du Bitcoin est toujours aussi anecdotique, au ransomware, bien entendu. Mais bref, une vraie news après, donc, c'est, après tout ça, c'est ce qui est arrivé à Binance, qui s'est fait attaquer par un gros procès sur ses pratiques financières un petit peu discutables. Et ce gros procès vient de se clôturer sur une énorme amende de 4,3 milliards de dollars. La boîte et son PDG ont plaidé coupables, de toute façon, de violation des sanctions économiques, avec des transferts d'argent illégaux avec Cuba, la Syrie et l'Iran. Changpeng Zhao, je pense que ça se produit comme ça, va devoir aussi payer 50 millions d'amendes, et il s'en tire bien, ce mec, hein, puisque c'est quand même un des plus riches crypto-milliardaires du monde. Donc Binance avait été attaqué par le département de la justice, hein, au terme d'une enquête de 3 ans, pour divers manquements, règles bancaires, financières, voilà. D'ailleurs, dans une certaine mesure, elle a évité le pire, parce que l'amende intervient dans le cadre d'un accord en réalité, et Binance n'a pas été reconnue coupable de mauvaise gestion des fonds de ses clients, ni de manipulation du marché, donc ça aurait pu être largement pire. Donc il est crucial pour elle de sauvegarder sa légitimité, en se distanciant le plus possible de FTX, évidemment. Donc Binance joue la carte du bon élève, voilà. Ok, on a fait des erreurs. Ok, tapez-nous sur les doigts. On paye, mais voilà, vous voyez, nous on est intègre. Donc il faut coopérer, voilà, la plus grosse, désormais ce qui est la plus grosse bourse crypto du monde, hein, sera dirigée par Richard Teng, donc qui était avant boss des marchés régionaux. Donc c'est un ancien de la boîte, alors c'est un ancien, bon, tout est relatif, de toute façon l'entreprise a été créée en 2017. Donc, et bon, puisqu'on parle de crypto, parlons aussi un petit peu des jeux Web3, hein, on va conclure là-dessus en parlant des jeux, voilà, ces fameux jeux où tu peux gagner des cryptos en jouant, sous-entendu donc aussi gagner de l'argent en les revendant. Oui, parce que vous avez remarqué, paradoxalement, les cryptos sont des monnaies qu'on garde jamais. On les revend toujours pour avoir du vrai argent, hein, et pour avoir une vraie monnaie. Donc. Mais bref, sur CoinGecko, on fait le bilan sur la survie des jeux lancés entre 2018 et 2023, et les trois quarts sont déjà morts. En 2019 et 2020, la proportion des jeux décédés, hein, par rapport à ceux lancés, s'est maintenu au-dessus de 94%. En 2021, seule la moitié sont décédés, mais ça s'est équilibré l'année suivante, parce qu'il y en a eu plus de morts que de naissances. Donc, jusqu'à présent, en 2023, on est à 70% de décès. Alors, perso, si tu regardes l'article, tu dis, mais je suis fasciné de voir le nombre de jeux qui se sont lancés.
C'est énorme. C'est
et qui sont morts,
colossal.
Dans l'indifférence la plus totale. Mm-hmm. Plus de 2800 jeux ont été lancés en 5 ans.
Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme variété de gameplay là-dedans?
Ben c'est ça. Et d'ailleurs, plus de 2100 ont déjà disparu. Donc, je sais pas, c'est des clones des uns des autres. Ça me paraît quand même assez incroyable parce que, bon, en plus, c'est vrai que les jeux pay to earn, c'est un peu toujours le même principe pour le coup, tu vois. Bon. Alors, les 700 qui restent d'ailleurs sont probablement en sursis. Parce que, bon, s'ils sont tous comme Axie Infinity, ils feront pas long feu. Hein. Les exemples de jeux que j'ai pu voir n'ont pas l'air si fun. Hein. Et puis, sur la longueur, ça a l'air même atrocement chiant. Donc bon, écoute, voilà, on va voir.
On continue à parler un petit peu de crypto avec des infos pour le Bitcoin. Mais je me rappelle qu'on avait déjà parlé de la consommation d'eau du Bitcoin. Tu reviens sur le sujet, Guillaume?
Mais finalement, je l'ai mise, cette...
Moi, je l'ai vue là, je la mets, je l'enchaîne, hein, attention. On en avait parlé
déjà
de ça.
Oui, je croyais
que
je ne l'avais pas mise, finalement, effectivement.
C'est ce que je disais. Soit on en parle, soit je le mets à la poubelle, attention.
Non, mais je... effectivement, en fait, oui, j'ai juste mis le lien de l'article de Alex De Vries qui étudie la consommation d'eau, effectivement, du Bitcoin. Et lui, alors, il l'estime toujours de manière assez approximative. Mais enfin, de toute façon, il a une fourchette qui est entre 8,6 et 35,1 milliards de litres d'eau annuellement dans les États-Unis, rien qu'aux États-Unis. Et bon, alors, après, c'est toujours difficile avec les images, mais bon, il dit que c'est à peu près une piscine donc d'eau par transaction au Bitcoin. Donc,
c'est pas rien.
Sur Bitcoin, ça consommerait une piscine d'eau. Bon, c'est toujours, voilà, c'est pour donner une idée. Mais en fait, effectivement, comme tous les serveurs en réalité, hein, comme tous les serveurs qui font des calculs, ben, il faut refroidir, il faut humidifier aussi, parce que si c'est trop sec, ça donne des problèmes d'électricité statique. Donc, il faut maintenir une certaine humidité, mais en même temps, il faut aussi refroidir, hein, quand c'est dans des endroits qui sont très chauds, parce qu'il y a même beaucoup de ces mineurs de crypto qui sont au Texas, en l'occurrence, aux États-Unis. Bon, pas là qu'il fait moins chaud. Donc, effectivement, tout ça, hein, comme dans tous les serveurs, il faut effectivement beaucoup d'eau pour les refroidir, etc. Et bon, vous me direz, oui, c'est comme les autres choses, quoi. C'est comme les serveurs normaux. Et oui, c'est comme les serveurs normaux, sauf qu'à la différence des serveurs normaux, ça sert strictement à rien, le Bitcoin. Mmh. C'est un petit peu la différence, quoi. C'est-à-dire, quand vous utilisez vos services web, vous avez directement un service. Alors que le Bitcoin,
Comme tu l'as dit juste avant, c'est une monnaie qu'on garde jusqu'à ce qu'on l'échange avec une vraie monnaie. Allez, Asus qui est attaqué par Lenovo. Mais sur quoi, Guillaume ?
Ben, on ne dirait pas comme ça, mais les PC portables, dont on pourrait penser qu'ils se ressemblent tous d'ailleurs,
ouais,
sont en fait couverts par une montagne de brevets. Et du coup, comment ça marche ? Est-ce que tous les constructeurs ont des brevets différents ? Est-ce qu'ils réinventent tous la roue à chaque fois ? Eh bien, souvent, oui, en fait. C'est ça qui est fou. Parfois, il y a des procès même pour le rappeler. Et là, c'est Lenovo qui attaque Asus sur 4 brevets différents, qui sont parfois assez vagues, comme une méthode pour transmettre des blocs de ressources. Waouh, ok. Et il y a plus précis, hein, comme le Wake on LAN ou le Diagonal Scrolling sur le touchpad. Voilà, donc apparemment, il y a un brevet, ce que vous faites.
C'est fou.
Ben ouais, quand vous mettez, quand vous scrollez en diagonale, ça fait un truc particulier sur certaines marques. Bon, voilà, apparemment, c'est... Ou encore, il y a la charnière à double axe. La charnière à axe double qu'on trouve, par exemple, sur les ZenBook Flip, qui permettent de retourner complètement l'écran sur l'arrière, voilà. On n'y pense pas forcément, hein, mais en fait, tout ça, c'est protégé. Hein. Il règne un équilibre de la dissuasion par les brevets, et bon, Lenovo en aurait 28 000, dont 14 000 en cours d'approbation, d'ailleurs. Donc, c'est quand même, c'est assez délicat. Et bon, Lenovo dit qu'il a offert à Asus un deal de licence croisée, et qu'ils sont en faveur d'accords justes dans le domaine. Néanmoins, ils veulent aussi affirmer leurs droits sur leur portefeuille de brevets plus activement, voilà, comme ils disent. Et voilà, cette action est donc dernier ressort, parce qu'ils ne peuvent vraiment pas faire autrement. Donc Asus, quand même, risque de se voir interdire le marché US voilà, pour tous les produits qui violeraient les brevets hein, de Lenovo. Et c'est assez rare hein, que deux gros fabricants de PC se tapent comme ça dessus frontalement, c'est assez rare.
À tel Godzilla et King Kong qui se mettent sur la gueule. On va continuer à sortir les popcorn. On va terminer avec une histoire particulièrement rocambolesque, une histoire assez cocasse aussi, basée sur un mauvais partage sur Teams, Guillaume, qui a d'énormes conséquences.
Ouais, c'est assez marrant. Enfin bon, c'est marrant de loin, parce qu'en fait, c'est le français marrant, Valeo. Hein. C'est le français Valeo qui attaque Nvidia en justice pour vol de code et de secret industriel. Donc il y a un ex-employé qui s'appelle Mohamed Mouniroudzaman, qui est désormais ingénieur chez Nvidia, qui aurait fait la grosse bourde de diffuser son écran lors d'une conférence avec du code qui appartient à Valeo dessus.
À la boulette.
Valeo... Valeo et Nvidia travaillaient donc sur... Enfin, ils travaillent d'ailleurs toujours probablement sur un système de parking automatique. Et, voilà. Et c'est Nvidia qui a repris le flambeau côté logiciel, Valeo se chargeant donc du matos. Et c'est à ce moment que Mouniroudzaman, bref, s'est vu une belle carrière chez Nvidia, hein, puis s'est dit, voilà, moi je connais tout ça par cœur, donc il est parti en emportant 6 gigaoctets de sources et des dizaines de milliers de fichiers liés au projet. Et toutes ces infos volées lui auraient donc assuré une belle position chez Nvidia.
Et les a rangées dans un dossier Valeo sur son ordinateur.
Ah mais de toute façon, c'est quasi ça, de toute façon.
Je crois que c'est vraiment ça le nom du dossier à Paris.
Ah ouais, non mais clairement... Secret volé Valeo. Non mais c'est quasi ça, c'est quasi ça, parce que l'employé a tout avoué et la police allemande a trouvé chez lui lors d'une perquisition toutes les données. Ça a été transparent, il n'y a eu aucun problème. Donc lui, il a été condamné à une amende, mais maintenant c'est Nvidia en réalité qui est attaqué par Valeo, parce que Valeo dit que de toute façon Nvidia a bénéficié de toute la R&D faite par Valeo là-dessus et que donc ça lui a économisé des millions et des millions de dollars, tu vois. Donc du coup, ils veulent réparation là-dessus.
Une histoire particulièrement cocasse, donc voilà, faites attention quand vous partagez sur Teams, ne partagez qu'une fenêtre et pas tout l'écran, ça peut peut-être vous sauver la vie. Merci Guillaume pour la veille de cette semaine en matière de tech, merci pour l'épisode hebdomadaire, mais aussi et surtout pour cet épisode supplément. Grâce à ces deux épisodes, je pense que vous êtes complet sur l'actualité des nouvelles technologies de cette semaine. Si jamais vous trouvez que ça remplit son rôle de vous apporter de l'info qualifiée dans un ton divertissant que vous pouvez consommer durant les temps morts de votre journée, je vous invite à vous rendre sur patreon.com/techcafé et d'envisager bien évidemment de nous soutenir durant la période et à la hauteur de ce que vous trouverez juste. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur techcafé.fr avec les articles qui accompagnent la parution de chacun des épisodes et avec les liens qui sont tous disponibles et cliquables dans les commentaires sur techcafé.fr et sur Discord, techcafé.fr/Discord, où vous pouvez discuter entre vous et avec nous. Je vous invite enfin à ne pas oublier de déposer un avis sur Apple Podcasts, sur Podcast Addict, ce qui nous permet de valoriser le podcast à celles et à ceux qui découvriraient Tech Café. Et puis, bien entendu, vous le savez, on est à votre dispo à titre individuel pour échanger avec vous, recueillir vos doléances. Guillaume, où est-ce qu'on peut t'adresser nos remarques ?
Moi, là, je ne suis pas dispo parce que je suis en train d'essayer de trouver un PC chinois sous Longsun. fond, on fait essayer de, pour essayer de le tester, voir s'il fait tourner Crysis.
Mais attends,
un PC chinois comme ça, avec une architecture complètement exotique, c'est pas tout le monde qui a ça, à mon avis.
Tu nous feras un épisode dédié à ton test, effectivement, sur cette appareil. C'est tout le mal qu'on te souhaite. Merci beaucoup, Guillaume. Je suis Guillaume Vendée. Vous me retrouvez sur guillaumevendée.fr, sur les réseaux sociaux. Et bien entendu, dans quelques jours, pour un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous.
Ciao à tous.